Amen. Bon, mais sur l'enregistrement, il n'y aura pas la lecture, l'enregistrement audio, il n'y aura pas la lecture des versets, mais c'est correct. Alors, les premiers disciples de Jésus, les premiers disciples, et ici vraiment, on peut voir que Jean continue son thème. Le thème, c'est quoi le thème de l'évangile de Jean? Quelqu'un se rappelle? Hey, on va le faire pendant toute l'année, il faudra au moins, si vous apprenez une chose, apprenez le thème. C'est quoi l'idée maîtresse de Jean? C'est quoi que Jean veut communiquer avec son évangile? La manifestation de la gloire de Dieu par Jésus-Christ. OK? C'est pour ça que le mot « manifester », c'est important, ça revient. Et là, ici, Jean, là, l'auteur de l'évangile, l'écrivain de l'Évangile, il veut accomplir ceci, non pas comme on a vu la semaine dernière là, avec la présentation de Jésus à la délégation des pharisiens qui arrivaient de Jérusalem, ni à la foule, comme on a vu la semaine dernière là, dans les versets 19 à 34. Là, ici, il se présente aux premiers disciples. Ceux qui ont expérimenté la grâce salvatrice, ceux qui, c'est-à-dire à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mais sont devenus enfants de Dieu. C'était pas juste des gens qui suivaient, c'était des gens qui ont cru en lui et qui ont été ses disciples pour le restant de leur vie. Ceux-là ici, parce qu'on sait qu'il y en a un, on va le voir plus tard, là, Judas, qui était le fils de perdition, mais ici, vraiment, on a des gens qui ont trouvé le Seigneur comme leur sauveur. Et qu'est-ce qu'on va voir avec le texte d'aujourd'hui? C'est que, vous savez, il y a un seul chemin vers Dieu. Hein? Jésus il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais il y a plusieurs façons d'arriver à Jésus, par contre. Et c'est ce qu'on va voir dans le message. Ils ont tous été sauvés, mais le moyen par lequel ils ont rencontré Jésus, ça l'a différé, en fait. On va voir ensemble quatre façons de rencontrer Jésus pour le salut. C'est bien simple comme message. Il y a beaucoup de choses par rapport à l'évangile, l'évangélisation, mais il y a aussi beaucoup de leçons pour nous dans nos vies. Puis c'est drôle parce que hier, on avait un déjeuner à Vieille-Capitale, juste avant le cours. Puis c'est drôle qu'il y a plein d'affaires qu'on a parlé, qui sont là-dedans, puis je n'ai pas préparé mon message hier après-midi à la lumière de ce qu'on a parlé. C'est drôle comment le Saint-Esprit ramène. Vous allez voir, les gars, soyez attentifs. Des versets, à un moment donné, dans le cours, vous avez amené des versets. Vous allez voir, il y a des versets que vous avez amenés à la lumière de ce qu'on étudiait dans la théologie, puis qu'on va voir aujourd'hui. C'est spécial comment le Seigneur a de la suite dans les idées. Ça doit être un hasard, évidemment. Donc, OK. La première façon de rencontrer Jésus, dans les versets 35 à 39, nous avons Jean et André. C'est-à-dire, cette première façon, c'est le fait de rechercher plus. Parce que quand on lit ici, là, ça dit le lendemain, Jean. Puis là, il ne faut pas se mêler de Jean. Là. Quand ça dit Jean ici, c'est Jean-Baptiste, ou Jean l'immergiste, Jean le baptiseur, Jean, OK. Là, ça dit, bon, ayant regardé, Jésus qui passait, il lui dit, voilà l'agneau de Dieu. Donc, il pointe à Jésus, il est très bon là-dedans. Jean ramène tout le temps le spotlight sur Jésus. C'est exactement ce qu'il faut faire. Les deux disciples l'entendirent. Puis là, c'est deux disciples de Jean. OK, c'est qui eux autres? L'entendirent prononcer ses paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, ils leur dit, « Que cherchez-vous? » Tu sais, ouais, vous cherchez, c'est quoi? Vous êtes en recherche. Les questions de Jésus, souvent, c'est tellement riche en leçons. Jésus lui pose une question. Que cherchez-vous? Ou peut-être justement que vous les amenez à qui cherchez-vous? Puis là, bon, là, il répondit, Rabbi, ça signifie maître, où demeures-tu? Donc là, il voulait savoir un peu plus sur ce Jésus-là, OK? Il recherchait plus. Venez, leur dit-il, et ils allèrent, ils vinrent où ils demeuraient, et ils restèrent là auprès de lui, c'est environ la 10e heure. Puis on apprend dans les versets suivants qu'un de ceux-là, c'était André, l'autre, tout le monde déduit que c'était Jean. Jean ne se présentait jamais trop en se mettant à voir, voici moi. Mais d'après le contexte, d'après ce qu'on comprend, Jean et André étaient disciples de Jean-Baptiste. Puis là, ici, c'est les deux qui cherchaient à connaître plus sur Jésus puis qui l'ont connu. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord avec moi-même. Si vous n'êtes pas d'accord, on s'en parlera après. Mais je crois que les deux disciples ici, c'était Jean l'apôtre, là, celui qui a écrit l'Évangile, et André, le frère de Pierre, comme on va le voir dans un instant. Mais la première façon, ceux qui voulaient rechercher plus, c'est qui ce Jésus-là de Nazareth? Puis, voyons, Jean qui nous le présente comme l'agneau de Dieu. On voit vraiment ici qu'il était en recherche. Et je veux juste mettre quelque chose au clair en partant. Pour qu'on en arrive à vouloir rechercher plus, c'est parce que Dieu lui-même nous recherche. Hein, ça dit, si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Puis Galates, chapitre 1, verset 15, ça dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. » On ne va pas rentrer dans toutes les ramifications théologiques de ça, mais juste pour dire que si on cherche plus, c'est parce que Dieu fait un œuvre de grâce et tout ça. Bon, je vais laisser ça là, mais on peut-tu résister à la grâce de Dieu et tout? C'est pas là-dessus que je veux aller, mais l'idée que je recherchais plus, c'est parce que Dieu faisait déjà une œuvre dans leur cœur. Mais ce que j'aimerais voir avec ces premiers disciples, Jean et André, c'est considérer le principe, ou ma femme tantôt, quand Caprière parlait de loi spirituelle, ou on peut dire réalité spirituelle, c'est que Dieu donne plus de lumière à ceux qui répondent à la lumière qu'ils ont. Là, il y avait Jean-Baptiste qui parlait de l'agneau de Dieu, puis là, voyons, il se grattait la tête, puis là, ben, on va aller voir Jésus, puis on va aller voir où ce qui reste. Voyez-vous, Dieu se révélait plus, là, OK, celui dont Jean-Baptiste y parle, puis là, il passe eux-mêmes du temps avec lui, hop, tu sais, il y a plus de lumière. Puis c'est comme ça tout le temps, selon ce principe spirituel-là, c'est que lorsqu'on répond à la lumière que Dieu nous donne, Dieu va nous donner plus de lumière. Fait quand on recherche plus, puis qu'on répond à ce que Dieu nous montre, Dieu va nous en montrer plus. C'est vrai pour les perdus, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui disent, mais on semble que la vie sur Terre n'est pas juste faite pour ce qu'on voit. Puis, il doit y avoir quelque chose de plus. Okay? Ça, c'est Dieu qui travaille dans le cœur. Puis justement, quand quelqu'un veut savoir plus, bien là, Dieu va se servir de quelqu'un, d'une circonstance, d'un livre, de toutes sortes de choses, et que va nous donner plus de lumière. Mais savez-vous, c'est vrai aussi pour les enfants de Dieu, c'est vrai pour nous. Hein, si on dit, on sent qu'il y a plus à la vie chrétienne que juste la vie dans le désert, la subsistance. Et il semble que Canaan, c'est pour moi ça aussi. OK, quand on recherche plus de même, ça aussi, le principe s'applique. Et là-dessus, j'ai retenu le Proverbe 4, verset 18. « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » C'est-à-dire que Dieu nous donne de plus en plus de lumière lorsque on répond à la lumière qu'il nous donne dans le moment présent. Et ça, c'est bien simple. Dans le fond, c'est l'idée de « on cherche Dieu si on le trouve hein? ». Si on croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche, ou qu'il cherche avec diligence, qu'il cherche de tout cœur, où Jésus le dit dans Matthieu 7, « Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe, à celui qui toque. » Comme disait, vous rappelez-vous, quand on est allé au Nouveau-Brunswick, lorsque vous toquez à la porte, ça, les Africains, ça doit probablement venir de vous autres, toquer à la porte, parce que lui était missionnaire en République centrafricaine. Et moi, toquer à la porte, là, des fois, on dit il est toqué un peu, là, mais toquer à la porte, je ne l'avais jamais entendu, celle-là. Est-ce que vous dites ça, vous autres? Oui, toquer à la porte. Ah, nous, on cogne à la porte. Il y a des vieilles versions qui disent heurter. On ouvre à celui qui heurte. Genre Lamartin puis la Osterval. En tout cas, je ne sais pas si je vous ai heurté en vous parlant comme ça ce matin. Mais c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Hey, j'ai un autre passage qui va dans le sens de si on recherche plus, on va trouver Ésaïe 55. J'aime souvent terminer mes messages avec cet appel d'Ésaïe. Et ça, je me rappelle toujours de ce détenu qui a trouvé le Seigneur. C'est le verset, la vérité que Dieu a utilisé pour l'amener à Jésus. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ça, c'est un beau verset pour appeler les perdus à ceux qui ne le connaissent pas. Mais savez-vous que la suite de tout ce qui est après, spécialement les versets 8 et 9 dans Ésaïe, c'est bon pour nous les chrétiens, car ça dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Autrement dit, avec Dieu, des fois on dit « Je ne peux pas tout comprendre », mais quand on le cherche, Dieu va se révéler à nous. Pas qu'on va tout comprendre les voix de Dieu, mais on va comprendre plus de qui est Dieu. Dieu lui-même va se révéler. On cherche quelque chose de Dieu, il va se donner lui à nous, il va nous révéler quelque chose sur lui. Et je dirais ça, c'est un bel appel à la terre promise, justement, comme on en parlait. Si, comme enfant de Dieu, on dit, « Il me semble que la vie chrétienne n'est pas supposée être dole de même. » Tant qu'il y a plus, tu vois dans la Bible, c'est excitant, il y a de la joie, il y a de la paix, il y a de l'abondance. Ben justement, c'est ça. C'est quand on a cette vie, qu'on la vit, cette vie de Dieu en abondance, effectivement. On est dans Canaan, on n'est pas dans le désert. Et juste un petit mot là-dessus. Comment a été conquérie la terre de Canaan, la terre promise? Les luttes, les victoires n'étaient pas... Parce qu'ils se sont battus. Ils ont eu des combats. Okay? En fait, le livre de Josué, qui est le livre de la conquête, ben, c'est un livre de guerre. Puis même quand un moment donné, il y a des bouts... Ben, là, on conquiert par... Il y a des bouts qui sont un peu plus plates, parce que c'est juste les places qu'ils ont conquéries. Là. Fait que c'est un peu une description géographique de telle place, telle place, telle place. Mais c'était des combats, une lutte, la victoire... Selon Dieu, pas selon la logique humaine, selon la force humaine, mais vraiment selon la force de Dieu. Et n'est-ce pas aussi pour nous, les enfants de Dieu, lorsqu'on apprend à combattre le combat de la foi, on se rend compte que les armes avec lesquelles on combat ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. On se rend compte de plus en plus, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et ça, c'est une grande découverte merveilleuse. Et je vous dirais, il n'y a pas personne ici que c'est son domaine d'expertise. Et je vous explique. Dieu n'arrive pas, puis, hey, toi, Dave, tu es tellement bon là-dedans, là. Toi, je t'ai désigné pour ça parce que tu es bon, puis Geneviève, toi, tu es une experte là-dedans, puis Dieu ne marche pas en tout domaine. Premièrement, il ne nous demande pas nos conseils. Hey, qu'est-ce que je pourrais faire avec cette situation-là? Non, Dieu va prendre quelque chose qu'on est donc faible, qu'on est donc pas bon, puis qu'on comprend rien. Donc, il ne va pas dire, « Hey, toi, t'es la personne tout désignée parce que t'es donc bon. » Il va dire, « T'es la personne tout désignée parce que t'as rien. Puis moi, je vais te remplir, puis je vais te donner tout ce dont t'as besoin. » Puis ça va marcher de même. Puis Dieu, il dit, « Ben, ça te dérange-tu? C'est-tu le bon moment? » Est-ce que Dieu est comme ça? Non. Dieu va dire, tiens, là, c'est le moment, pouf, pas de consultation, pas de formulaire à remplir, là, qu'on signe en bas, là, formulaire d'acceptation. Là. Non, avec Dieu, c'est pas comme ça. Mais c'est parce qu'il est bon, parce que ici, de toute façon, ça ne servirait à rien, toutes les choses dont je le dis un peu de façon humoristique. Pourquoi? Parce que Paul nous l'explique demain dans Romains 11, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables, que ses voies sont incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Personne. C'est pour ça que Dieu, il va nous dire, « Regarde, moi j'ai décidé de faire ça, de cette façon-là, à ce moment-là avec toi, parce que je le sais. Moi, j'ai toute la sagesse, j'ai toute la richesse, j'ai toute la connaissance. Fais-toi-en pas. » Je m'occupe de tout. Pourquoi? Pour le mettre en clair, Dieu s'assure que, comme ça dit dans Proverbe 21, on comprenne tous et qu'on soit convaincu dans nos cœurs qu'il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Vous demanderez à Job, à ses amis, il y en a juste un qui avait raison, c'est vous ce qu'il disait, Dieu peut faire ce qu'il veut, puis on a juste à s'attendre à lui, c'est le dernier qui a parlé. Les autres, là, tout ce qu'ils ont dit, là, ça a parti dans le vent. On l'a dans les Écritures, Dieu l'a préservé. Mais il veut dire, en tant que poids éternel pour la vie de Job, c'était pas ça le matériel dont Dieu s'est servi. Parce qu'il n'y a pas de sagesse, ni d'intelligence, ni de conseil devant l'Éternel. Ça dit dans le verset suivant, « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. » Donc, que Dieu fait quand il nous amène sur ce chemin de le découvrir, lorsque, comme justement, là, les Jean et André, quand on recherche plus, quand il y a quelque chose qu'on voit un vide, puis que Dieu veut le combler, il fait simplement nous mettre en posture spirituelle dans dans un contexte où est-ce que Dieu s'assure que on l'adore en esprit et en vérité. Puis qu'on arrive avec cette pensée, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Autrement dit, Dieu s'assure d'avoir toute la gloire pour lui. Puis si vous avez un peu perdu le fil de ce que je veux vous communiquer dans ce premier point-là, c'est simplement ceci. Ça nous dit Jean-Jérémie, « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cassez-vous pas la tête. Puis ça, j'aime ça à le dire. Des fois, les gens se demandent, « Il est-tu sauvé ou il n'est pas sauvé? » Non, est-ce qu'elle connaît vraiment le Seigneur? Des fois, on voit des gens, puis là, on peut douter. Puis c'est normal, je veux dire, il y a quelque chose même de correct. Si quelqu'un n'est pas certain qu'il est vraiment né de nouveau, de communiquer notre souci, OK? Mais la solution, c'est pas, OK, dis vraiment comme il faut la prière. Faut vraiment, non, c'est, cherche Dieu. Dans ce que tu vis, cherche-le. Puis il va peut-être la personne le trouver pour être sauvée vraiment, ou peut-être que la personne est confuse, puis elle n'est pas enracinée dans la parole. Elle est sauvée, mais disons, pas très enracinée. Mais la solution est la même. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. C'est une question de trouver Dieu dans ce qu'on est en train de vivre. Fait que si la personne la cherche plus, puis justement, elle cherche Dieu, ben elle va le trouver. Que ce soit pour son salut, que ce soit pour sa sanctification. Donc, je vous encourage à sauter à pieds joints dans cette aventure de chercher Dieu. Pas juste sa main, puis ce qu'il peut faire, mais sa face, ce qu'il est. C'est ça. Le but ultime, découvrir qui Dieu est. Et ça, c'est l'histoire d'une vie. Ça commence au salut et ça se poursuit toute notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu est inépuisable. On va le découvrir même jusque dans l'éternité. Il est tellement grand et infini. Donc ça, c'est nos deux premiers, Jean et André, qui cherchaient plus. Première façon de rencontrer Jésus. Semble qu'il y a quelque chose de plus à découvrir sur ce Jésus. Okay? Deuxième façon, mais par un membre de la famille. Ça, c'est Pierre. Parce que là, on lit ici, dans les versets 40 à 42, « André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu la parole de Jean, okay, dans les versets précédents qu'on vient de considérer, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, et le conduisit vers Jésus. » Quelle belle parole, hein? C'est simple, il l'a conduit à Jésus. Il a présenté Jésus. Viens, j'ai quelqu'un à te présenter. C'est ça, l'évangélisation. Il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. » Donc, amené au Seigneur à travers un membre de la famille. Et vous savez, bon, des fois on va citer, puis on parlait de ça hier justement, Jésus lui-même qui a dit « Un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. » Parce que Jésus, quand il était dans sa patrie et à Jérusalem, écoutez ce que les gens disaient. « Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et là, c'était justement Ésaïe 60, verset 1, là, c'est ce qu'on a lu ce matin. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph? » On le connaît, là. C'est le fils de Joseph. Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Ouais, on veut te checker, Jésus. Là. T'es-tu vraiment le produit authentique? On n'est pas sûr. Puis là, c'est là que Jésus a ajouté, je vous le dis en vérité, « Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Et donc, des fois, on va penser avec, c'est vrai, c'est une réalité, avec les membres de notre famille qui nous connaissent donc bien, on n'est pas très bien reçu. Hein, n'est-ce pas un exemple souvent? Et Jésus ici, on sait, parce qu'à un moment donné, Jésus est avec un groupe, puis là, sa mère et ses frères sont venus, puis là, ils disaient, t'as perdu sens, ils reconnaissaient pas qui il était, puis ils croyaient pas en qui il était. OK? Donc, c'était généralisé, non seulement dans son village à Nazareth, mais aussi dans sa propre famille. Et donc, Jésus lui-même, le Fils de Dieu, hein, n'est-ce pas qu'il devait avoir un impact, regardez quelqu'un comme Jésus grandir, il me semble que ça doit avoir une petite influence sur ta vie, puis dire, vraiment, c'est qui quelqu'un comme ça? On se dirait, bien, évidemment qu'il va amener ses proches à croire en lui, dès le début. Mais ce n'est pas arrivé comme ça. Et donc, si avec Jésus, ce n'est pas arrivé comme ça, est-ce qu'on devrait se décourager si on ne voit pas nos membres de famille venir si rapidement qu'on le voudrait venir à lui? Pourquoi? Parce que l'exemple de la vie de Jésus nous montre que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, puis ça donne bien parce que Jésus est la vie, puis c'est une vie pleine d'espoir. Et là aussi, Jésus est un exemple parce que oui, OK, ils ne se sont pas convertis, mais éventuellement, ils se sont convertis. Son frère, Jacques, a écrit l'épître de Jacques, et à ce qu'on sache, historiquement, beaucoup se sont convertis dans sa famille. Puis, je pense à un exemple, ici, un peu moins connu, là, mais la famille Piché, n'est-ce pas? Une famille où est-ce que ça commence avec une personne, Estelle, qui est sauvée, qui partage dans sa famille, puis là, un autre, et vraiment, on voit la main de Dieu qui a fait en sorte que plusieurs dans la famille ont été sauvés, puis Dieu n'a pas fini. Dieu aime la famille Piché, aime la famille Martin, la famille Bertrand, la famille... Pourquoi? Parce que si Dieu n'a pas encore sauvé, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvables. Ça veut dire qu'il nous appelle à persévérer, à nous attendre à lui, à garder les regards sur celui qui sauve. Et là, je vais vous dire quelque chose souvent que l'ennemi va se servir, parce qu'on sait que si les gens ne sont pas sauvés, ils sont sous la puissance du malin, OK, ils ne connaissent pas, sont encore morts dans leur offense et leur péché. Fait que des fois, Satan va se servir d'eux autres pour nous dire quelque chose dans le genre comme ceci. « Ah, je te connais depuis longtemps, toi, t'es de même. Je ne suis pas surpris que tu es rendu là-dedans. » Moi, vous l'aimez à la sauce. « Ah, toi, Guillaume, là, t'es entier, t'es 100%. C'est pour ça que t'es devenu pasteur, parce que c'est tout ce que tu fais, tu y vas à fond. » Bien, premièrement, je ne suis pas devenu pasteur, c'est pour ça qu'il m'a sauvé. Je suis devenu chrétien. Puis quand je suis devenu chrétien, bien, au début, c'était pas à fond, puis c'est Dieu qui m'a fait. OK, comprends? Puis c'est toute l'œuvre de Dieu, fait que ça n'a pas rapport, je te connais, t'es de même. Puis je veux juste amener quelque chose par rapport à ça. Quand les gens disent ça, ils ont raison, puis ils n'ont pas raison. C'est vrai qu'ils nous connaissent, tu sais, une famille, on se connaît, on s'est vu petit, puis grandir, puis la personnalité, puis la façon de réagir aux choses. OK, ça, c'est vrai, ils connaissent ça. Mais j'aimerais vous lire 2 Corinthiens, chapitre 5, qui nous dit « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos cœurs, vos consciences, vous le connaissez aussi. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. » Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Les gens, ils connaissent quelque chose sur nous, mais ils ne connaissent pas spirituellement. Ils ne connaissent pas la nouvelle création que nous sommes. Ils peuvent en voir les fruits, on va en parler dans un instant, là. Mais ils ne nous connaissent pas vraiment. Ils ne connaissent pas vraiment la nouvelle réalité. Puis nous, en tant qu'enfants de Dieu, souvent, c'est ça pour ça que... Pourquoi qu'un enfant de Dieu, quand il en connaît un autre, il y a comme une connexion automatique de bon aller à l'autre bout du monde. Tu vois un enfant de Dieu, un authentique, ping, ça connaît. Pourquoi? Parce que on se connaît dans le Seigneur. Il y a une proximité qui est là, puis ça va au-delà des dénominations, puis tout ça, c'est comme, hey, j'ai un brodeur, j'ai une brodeuse dans le Seigneur que je retrouve à Kuala Lumpur, de toutes les places. Tu sais, je veux dire, Dieu, il n'est pas limité là, par le temps et l'espace. Puis quand on a un frère, une sœur dans le Seigneur, il y a une connexion qui est là. Et donc, je vais appliquer ceci de cette manière-là. Mettons l'accent, le focus, l'attention sur celui qui ne connaît pas. Au lieu de dire, ah, je te connais, tu... OK, oui, tu me connais d'une certaine manière, mais tu ne connais pas celui qui a changé ma vie. Puis je t'invite à le connaître. Tu me connais, mais tu ne connais pas tout sur moi parce que j'ai connu celui qui a complètement tout changé de fond en comble. Donc, on désire leur faire connaître celui qu'on connaît. Nous connaissons Dieu pour le faire connaître. Hein, c'est ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 3. « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. » Donc Dieu nous s'est fait connaître à nous pour qu'on puisse à notre tour le faire connaître. C'est ce que aussi on peut lire dans Colossiens chapitre 1, verset 27. « Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et là, peut-être que depuis tantôt, je parle de connaître, connaître, faire connaître. OK, comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça? Mais simplement en mettant le qui de l'avant. Le comment, en fait, c'est le qui. Comment je fais connaître en mettant Jésus de l'avant? Puis, pour le mettre plus précisément, en mettant de l'avant le fruit de sa présence dans nos vies. Christ, parce qu'il dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire, le mettre de l'avant, je vous donne un exemple. La Bible nous parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, on a ça dans Galates 5, 22. On va juste prendre les trois premiers aspects de ce fruit-là. C'est le fruit, il y a 9 aspects. C'est quoi les trois premiers?
Amour,
joie. Hey, t'es bonne. Petite nouvelle de même, hein? Plus si nouvelle, mais hey, amen. Amour, joie, paix. Les trois premiers, on pourrait regarder tout, ça serait trop long, mais les trois premiers aspects du fruit de l'esprit, l'amour, la joie et la paix. L'amour, là, c'est l'aspect tout inclusif du fruit de l'esprit. C'est mis en premier, c'est la prééminence. Hein? L'amour, c'est le lien de la perfection selon Colossiens chapitre 3. Puis 1 Corinthiens 13, on voit la prééminence, l'importance de l'amour. C'est le côté vraiment englobant du fruit de l'esprit. Et là, quand on parle de la paix, c'est une arme défensive. Parce que qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des requêtes et avec des actions, des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera, okay, c'est un côté défensif, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix nous garde, nous protège. La joie, de son côté, elle est offensive. Pourquoi? La joie de l'Éternel est notre force. La joie, c'est une force d'attaque face à l'adversité, face aux contraintes relationnelles. Quand Satan veut nous abattre parce que ça va mal, la joie est la réponse qui contre-attaque. Je développe un peu. Par l'amour, on est disposé à souffrir pour le bien et le péché des autres. Ça va englober toutes nos relations. Lorsque l'amour de Christ qui nous presse, qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, lorsqu'il se manifeste, c'est un amour sacrificiel, c'est un amour qui se donne, c'est un amour qui fait vraiment toute la différence dans nos relations interpersonnelles. La paix de Dieu va nous permettre de passer au travers en étant sous la protection de Dieu. Il y a des choses qui nous accablent, ça nous fait peur, puis là, Dieu nous garde avec une paix. C'est comme, hein? Donc, ça ne m'atteint pas. Les traits enflammés du malin, puis tout ça, Dieu me donne une paix, non? Il m'aime, je suis dans son amour, j'ai une paix qui garde mon cœur puis mes pensées en Jésus-Christ. Je me revais de Christ et vraiment de ses armes défensives, et ça, c'est la paix qu'il va me donner. La joie, comme je disais, ça nous permet de contre-attaquer. C'est une arme offensive, comme avec l'épée de l'esprit. On contre-attaque, il est écrit, lorsqu'on est face au découragement, à ce qu'on y tire vers le bas, ben, parce qu'à l'ennemi lui-même, ben, la joie va chanter en prison. La joie va faire ressortir Christ qui vit en nous. Fait que c'est pas défensif, c'est offensif dans le sens que c'est ce qui ressort de la vie de Christ en nous. C'est ça la joie. C'est pour ça qu'elle dit, il a mis un chant dans mon cœur, un chant nouveau. Qu'est-ce qui arrive quand un chant, ben ça sort, on peut pas le garder. C'est ça la joie du Seigneur. C'est plus fort que nous, ça ressort. Puis ça, c'est une arme offensive, cette joie-là. Et c'est ça que ça veut dire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, ce fruit de l'Esprit-là qui s'exprime en nous, à travers nous. Et par rapport à notre famille, des gens qu'on connaît bien qui disent « Ah, moi, je te connais bien », ça, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas parce que c'est de Dieu. Puis ça, j'ai juste pris les trois premiers, là. Vous savez quoi? Ça leur présente Jésus. L'amour de Jésus, la paix de Jésus, la joie de Jésus, qui n'est pas de ce monde. Et c'est ça qu'ils ont besoin de voir, parce que savez-vous quoi? Ils soupirent après ça. Ils vont à travers des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau pour essayer de se satisfaire, puis ils ne l'ont pas. Il y a juste le Saint-Esprit dans les enfants de Dieu qui satisfait comme ça. Et quand on met Christ de l'avant comme ça, on leur présente quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore. Ou je devrais dire quelqu'un qu'ils ne connaissent pas encore. Donc, on est rendu au troisième. Avec Philippe, on voit dans les versets 43 et 44, Donc, la troisième façon de venir à Jésus, par une interpellation directe. Et là, on va regarder les versets 43 à 44. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Une interpellation directe. Ici, je réfère au, je ne veux pas dire aux rares fois, mais disons aux fois moins communes, où est-ce qu'il n'y a pas d'instrumentalité humaine. Ici, bon, on s'entend, c'est Jésus qui était là sur terre, là, mais moi, je parle de quelqu'un qui est sauvé sans que quelqu'un y aille partager l'Évangile, donner un traité, OK? Genre, seul, avec ta Bible, ou OK, whatever. Je demanderais à Cindy de partager son témoignage, mais ça ressemble à ça. Puis ici, on a Philippe, mais Matthieu, c'est un peu ça aussi. Au poste de péage, rejeté de tout le monde, puis Jésus, direct, Matthieu, suis-moi. Tu sais, une interpellation directe. Voyez-vous un peu l'idée là, de ce que j'amène ici? Une interpellation directe. Mais la question, le principal, c'est pas tant l'instrument. Y a-t-il un instrument ou pas? C'est celui qui sert l'instrument, c'est celui qui sauve. Fait que, je veux dire, c'est quand même secondaire qu'il y ait un instrument ou non. L'idée, c'est qu'on rencontre Jésus. Puis Jésus a le droit de se servir de gens comme il veut, comme ça il tente. Des fois, il décide qu'il se sert de personne, qu'il va servir, de personne, je veux dire. D'une manière ou de l'autre, tu sais, mettons que quelqu'un lit un livre, ça a été écrit par quelqu'un, là. Il n'est pas directement devant toi de même, mais bon. Mais ce que je veux surtout mettre de l'avant, l'important, c'est pas tant l'instrument que la personne qui sert l'instrument, puis ça, c'est Dieu, la personne qui sauve. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Fait qu'il y a un instrument ou non, l'important, c'est d'entendre la voix du Seigneur et d'y répondre. Et lorsque quelqu'un est sauvé, lorsque quelqu'un se convertit à Christ, c'est toujours personnel, toujours une affaire de cœur. Fait qu'il y a un instrument ou non, là. Tu sais, mettons que quelqu'un te parle, c'est Dieu que ça va résonner dans ton cœur. Comprenez-vous? Fait que. Qu'il y ait quelqu'un de présent ou non, il y a tout le temps un dénominateur commun. Dieu s'adresse à notre cœur. Il va dans la partie la plus intime de notre être. Vous connaissez l'expression? Il y a 12 pouces de différence entre connaître des choses au sujet de Dieu puis connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est la conversion, c'est dans notre cœur. Puis on peut être toute notre vie à connaître plein de choses au sujet de Dieu, mais pas le connaître comme notre sauveur personnel, comme notre Seigneur. Et donc, faut toujours se rappeler que le Seigneur s'adresse à nous. Il nous interpelle pour le salut, mais aussi pour grandir en lui. Regardons quand on a eu des moments dans notre vie où est-ce que des fois on était vraiment dans le fond du baril, dans une passe vraiment difficile, puis que là, le Seigneur s'est adressé à nous. Puis on dit, ah, Seigneur, t'es bon, t'es précieux, t'es fidèle, t'es là. Merci, Seigneur. C'est de ça qu'on parle. C'est Dieu qui nous interpelle personnellement. Et là-dessus, j'ai une question introspective à vous poser. Est-ce que vous considérez, puis là, je m'adresse aux enfants de Dieu, considérez-vous Dieu comme une personne à servir ou comme une personne à découvrir? Amen. Parce qu'une personne à servir, c'est juste là, il faut que j'écoute, puis tout ça, puis c'est sûr. En fait, c'est une personne à découvrir, quand on le découvre, on ne peut pas faire autrement que pouvoir le servir. Mais c'est vraiment une différence. Puis là, c'est là qu'on voit l'importance, les gars, la théologie. La théologie, c'est Dieu qui se révèle à nous, puis notre théologie, c'est comment qu'on reçoit, comment qu'on internalise cette vérité de Dieu. De qui est Dieu. Et ça change absolument tout dans notre vie, ça change tout dans nos relations, ça change tout dans notre cœur, la façon dont on voit Dieu. Je vais donner un exemple. C'est quelqu'un que je sers ou quelqu'un que je découvre? Si je suis quelqu'un que je découvre, ça va changer vraiment absolument la façon que je le sers. Parce que la motivation est complètement différente. Pendant des années, ma perception que j'avais de Dieu était bonne, mais incomplète. Puis les impacts sur mes relations, sur mon propre cœur, ce que ça a produit dans ma vie, c'était plus la mort, la séparation, parce que ma théologie, ma perception de Dieu était incomplète ou déformée. Elle n'était pas toute selon ce que Dieu est, pourquoi? Parce qu'elle était déformée par ma propre crainte de l'homme. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, d'ailleurs, c'est « Lorsque Dieu est petit et que les hommes sont grands ». C'est ça la crainte de l'homme. L'homme est grand, puis ce qu'il dit, puis ce qu'il pense, puis Dieu n'est pas grand. Alors que quand on a la bonne perception de Dieu, les hommes sont petits. Là. Même les politiciens qui se prennent pour deux, qui veulent asservir le monde, puis tout. Regardez dans la Bible, là, Dieu, là, pour lui, c'est comme un spectacle d'humour. Là. Ça ne le dérange vraiment pas. Il est au ciel, puis il se rit de ça, parce que ça n'a pas de répercussions sur Dieu. Dieu n'est pas affecté par des humains qui essayent de faire des plans machiavéliques. En fait, il est au-dessus de tout ça, puis ça ne le dérange pas. Vous voyez, c'est notre théologie. Donc, est-ce que Dieu est grand puis les hommes sont petits ou est-ce que les hommes sont grands? Hein, comment je l'ai dit, là? En tout cas, vous comprenez, je ne vais pas mêler, là. Ça, c'est notre théologie. C'est notre théologie. Est-ce que j'ai un « big God theology »? Est-ce que j'ai une théologie avec un Dieu tel qu'il est grand au-dessus de tout? Tout le reste va en découler. Puis là, je ne parle pas de pas être du monde puis de ficher du monde. Puis... Non, Dieu aussi est un Dieu de compassion puis comprend la faiblesse puis... Ça fait toute partie de notre théologie. Pour ça, je dis, on peut l'avoir, une bonne théologie, mais il peut nous manquer des bouts, on peut être effrité dans certains domaines. Puis c'est pour ça que lorsqu'on découvre Dieu, lorsqu'on apprend à apprécier qui il est, ça va tellement, ça va être une source de bénédiction, de vie qui va en ressortir, non seulement pour nos cœurs, mais aussi pour les gens autour de nous. Puis il y a un bon exemple là-dessus, Job. Job aimait le Seigneur, mais Dieu avait quelque chose à révéler sur lui-même à Job. Qu'il est souverain, qu'il est bon, même quand il permet les pires souffrances. Puis ça, Job, il a appris ça. Dieu a rectifié la théologie de Job et de ses amis. Les amis de Job, c'est quoi que Dieu a dit? Vous parlez pas... Pour le mettre dans les termes, il dit, « Hey, les trois amis, là, vous n'avez pas une bonne théologie. » Parce que ça dit à la fin, il dit, « Vous n'avez pas bien parlé de moi. » Dieu a pris ça personnel. La façon que vous avez parlé à Job, si vous m'avez mal décrit. Vous ne m'avez pas décrit tel que je suis. Le seul qui a bien décrit Dieu, c'est le dernier, le petit élu. Pas s'il était petit, là, mais le petit jeune de la gang, qui est un type de Christ. Tout le long, Job voulait quelqu'un pour l'écouter et pour le comprendre. OK? Puis Dieu avait de l'air distant, puis là, il souffrait, puis ses amis ne le comprenaient pas. Élu, qui représente Christ, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, il dit, regarde, il défend Dieu, Dieu peut faire ce qu'il veut, toi, attends-toi à lui. Il était l'intermédiaire, le bon intermédiaire qui... remets les yeux sur Dieu et les autres, mettez les yeux sur Job, t'as dû faire de quoi, c'est de ta faute, t'as dû faire des péchés flagrants qui te font mériter ça. En gros, c'était pas mal dans cette teneur-là. Et donc, ça m'amène au quatrième et dernière façon de rencontrer Jésus, par un ami proche. Et ça, c'est Nathanaël, on a ça dans les versets 45 à 50. Philippe! Donc, Philippe, là, qui déjà, lui, a été sauvé par une interpellation directe, Philippe rencontra Nathanaël. Il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Donc, il présente, OK. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Voyez-vous, encore, il l'invite à Jésus. « Viens et vois. Viens à Jésus. » Jésus voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Quand même, une introduction pas pire. « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » On s'arrête là parce que le dernier verset, on va s'en servir en conclusion. Donc, venir au Seigneur rencontrer le Seigneur par un ami proche. Et ici, on voit tout ce qu'on appelle le domaine des relations rédemptrices. C'est-à-dire des relations où est-ce que Jésus est amené comme la personne... qu'on veut partager puis qui manque à notre ami pas sauvé. Et là, ici, il faut comprendre. Là. Quand je parle de relation rédemptrice, je ne parle pas d'être sur le dos de nos amis, de les assaillir, de les achaler avec l'Évangile. Je parle plutôt d'être à l'écoute du Saint-Esprit, du Dieu vivant en nous, pour partager le plus grand trésor qu'on a. On les invite à Jésus. Viens voir Jésus! Je le connais, il est merveilleux. Veux-tu venir le découvrir avec moi? C'est de ça ici dont je parle, de partager avec un ami proche. Et ça a toute une autre teneur que d'être un peu comme un prosélyte qui essaye d'assommer nos amis avec les vérités de la Bible. Ou pour le mettre autrement, viens voir celui dont mes yeux ne cessent de s'émerveiller. Belle façon d'introduire à Jésus. Il dit, hey, on a trouvé le Messie, celui dont il parle. Et je dis, Nathanaël, viens écouter Philippe. Wow, il a trouvé. C'est pas n'importe qui a trouvé. On voit vraiment ici l'invitation, la façon que c'est faite. On voit que c'est tellement plus que juste inviter quelqu'un à répondre à un plan. Mais c'est répondre à une personne. Notre approche avec nos amis et toute autre personne, là, j'ai dit amis, mais ça peut être toute autre personne qui ne connaît pas encore Dieu. C'est pas tant nous qui veut les pousser que nous de se laisser pousser par Dieu. Dieu veut se servir de nous autres parce que Dieu, il veut se faire connaître. Et nous, pour être ses instruments, on a juste à se laisser pousser. Puis ça revient avec un verset qu'on a vu hier dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 21. Voilà. C'est pas le bon verset. Hey, il y a 1:12, on s'est trompé. Ça dit que c'est pas selon des fables abîmement conçues que ceux qui ont écrit, les Écritures qui ont écrit. Je vais aller vous le lire, là, parce que là, je suis en train de quasiment vous le massacrer. Là. Je me suis trompé sur ma feuille avec le verset, c'est pas le bon. 2 Pierre 1:21, puis on a fait la même erreur hier. Puis là, on dirait qu'on est copié-collé dans la journée d'hier. 1:21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça nous parle comment les Écritures nous sont venues, l'inspiration des Écritures. Mais nous autres aussi, on veut se laisser pousser par le Saint-Esprit, pas parce qu'on a une révélation nouvelle, mais parce qu'on a un message qu'on veut amener sur mesure, se laisser guider par Dieu, pousser par le Seigneur dans nos relations avec les gens qui ne le connaissent pas encore. Et ces relations-là que j'appelle rédemptrices, par définition, sont centrées sur Jésus. Je veux dire, comment tu peux avoir une relation rédemptrice si le rédempteur n'est pas en plein milieu? OK? Donc, c'est pas l'évangélisation par les œuvres, c'est pas égocentrique, il faut vraiment que j'y amène ça. Non, c'est christocentrique. Je t'amène à considérer celui que tu ne connais pas encore. Et c'est pas moi. C'est Jésus. L'attention doit être sur lui. Et là, je me donne une mise en garde. Se laisser pousser par le Seigneur, il ne faut pas prendre ça comme un prétexte pour excuser un esprit de gêne. Parce que le Seigneur, ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné. Parce que le Saint-Esprit, là, il est expert pour nous sortir de la zone de confort pour qu'on expérimente son réconfort. Ah, mais je ne me sens pas poussé par le Saint-Esprit de partager la parole. Alors, c'est peut-être toi qui es gêné, puis que justement, tu attristes le Saint-Esprit, parce que tu t'écoutes toi, puis tu ne veux pas passer au-dessus de cette peur-là pour faire confiance à ce que Dieu a pour toi là-dedans. Là. C'est le Saint-Esprit qui te pousse à aller au-dessus de ta gêne, au-dessus de tes réticences, tes appréhensions. Des fois, on dit à quelqu'un, « Ah, cette personne-là, elle ne sera sûrement jamais sauvée. Là. Il a l'air tellement endurci. Là. Ah, elle a l'air de quelqu'un qui... » Tu sais, il y a toutes sortes de pensées. Là. Non, non, si on est attentif au Saint-Esprit, il va nous dire, non, fiche-toi pas aux apparences. En fait, moi, je me rappelle, mon ami Mike, je me mets dans sa peau, puis il devait sûrement se dire, un an et demi avant que je sois sauvé, ah, lui, il ne sera jamais sauvé. Il est tellement... Il est comme, tu sais, moi, je me disais athée, je disais que c'est qu'il était quasiment attardé mental de croire. Non, mais quasiment, même je n'ai pas pris ces paroles-là. Tu sais, Je me moquais de sa foi, puis je la dénigrais vraiment. Ah, ça sert à rien, puis tout ça. Puis, il aurait vraiment pu jeter la serviette, puis dire, oh, lui, il ne sera jamais sauvé. Mais je pense que le Seigneur, il y avait d'autres choses. Est-ce que tu? Il a laissé le Seigneur le sortir hors de la zone de confort. OK? Fait, je ne le rendais pas inconfortable parce que j'avais des bons arguments. En fait, je n'avais pas, c'est lui qui l'avait. Mais je le rendais inconfortable du fait que, ah, il est bien achalant, lui, puis il est bien tannant, puis. Comment ça, que je vais me donner tout ce trouble-là et tout ça? Je suis content qu'il n'a pas abandonné. On dit en anglais, didn't give up on me. Parce que j'étais pas un candidat très, un prospect prometteur. Mais gloire à Dieu, Dieu a agi et il est intervenu. Ça m'amène à terminer avec le verset 51. Fait que là, on a tous eu ces belles personnes-là qui sont venues au Seigneur. Puis là, Jésus. Il dit au verset 51, il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » OK, ici, il faut comprendre ça dans le contexte avec ce qu'il a dit à Nathanaël. C'est ensuite dans l'entretien avec Nathanaël. Puis Jésus qui vient dire, tu vas voir des plus grandes choses et tout ça. Puis au verset 47, où est-ce qu'il disait que, c'est ça, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Donc, c'est ça, qu'il voyait des choses en Nathanaël que lui-même ne voyait pas. Et donc, d'après ce que je comprends des Écritures, si je compare les Écritures avec les Écritures, Jésus ici faisait un parallèle avec quelque chose de l'Ancien Testament. Tu sais c'est quoi, hein? Le patriarche Jacob avait eu, dans, je pense que c'est Genèse 28, une vision. On appelle ça l'échelle de Jacob, où il voyait les anges monter puis descendre. Donc là, Jésus fait référence à ça, mais il va plus loin que ça, parce que Jacob, il se faisait encourager. En fait, oui, c'est Genèse 28, 12. En fait, je l'ai noté, celle-là. Il eut un songe, Jacob, et voici... Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par l'échelle. Fait que c'est vraiment, Jésus fait vraiment un parallèle ici, la même image, les anges montaient et descendaient. Mais pourquoi? Jacob avait reçu une révélation surnaturelle de Dieu. Okay, Dieu, vraiment, il avait montré quelque chose qu'on ne pouvait pas voir comme ça de façon naturelle. Et de la même façon... Ici, Jésus et, tout ce qu'on appelle la compagnie apostolique, il n'y avait pas encore les 12, mais le début de ce qui allait devenir les 12 apôtres, bien, allait recevoir beaucoup de révélations sur qui Dieu est et ce qu'il est venu faire sur sa mission, sur la personne et l'œuvre de Dieu. Et tout ça, mes amis, c'est Jésus qui le révèle. Donc, Jésus était venu manifester sa gloire. Fait, quand il dit, vous allez voir maintenant des plus grandes choses, vous allez voir... des choses comme avec Jacob, là, des grandes révélations, des anges montés, descendre. Pourquoi? Parce que là, le Fils était là, le Rédempteur, Jésus était venu pour donner la pleine révélation de Dieu aux hommes. Parce que tout ce qu'on peut connaître de Dieu, tout ce que Dieu veut nous faire connaître sur lui, on le connaît au moyen de Jésus. Et donc, si tu es ici, tu n'as pas encore reçu pour toi-même Jésus comme ton Sauveur, tout ce que tu peux connaître au sujet de Dieu, afin de pouvoir connaître Dieu, c'est en Jésus. Tu as besoin de connaître des choses au sujet de Dieu pour être sauvé. Tu as besoin de savoir qu'il est le seul sauveur. Tu as besoin de savoir qu'il est le sauveur des pécheurs. Que ce n'est pas des justes qui sont venus sauver, c'est des pécheurs, des injustes, des menteurs. Et qu'il sauve parce qu'il aime le monde. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, pour qu'il soit sauvé par lui. Donc, si tu n'es pas sauvé, reçois Jésus comme ton sauveur. Et enfant de Dieu qui est ici, le salut, c'est juste le début du voyage, de l'aventure, de la foi, où est-ce que Dieu lui-même se révèle en nous. L'onction que nous avons reçue de lui, hein, le Saint-Esprit qui habite en nous, il nous guide dans toute la vérité, il nous révèle de plus en plus qui il est, et ce, à mesure qu'on répond à la vérité qu'il nous donne. Et là, j'ai 1 Pierre 2, 12, puis là, c'est le temps. Tantôt, c'était 21, mais 12, ça dit, voilà pourquoi, puis vous savez, vous venez ici à tous les dimanches, je ne vous ramène pas tout le temps une recette tout à fait nouvelle. Il y a certains réchauffés, mais pourquoi? Ça ne me dérange pas, parce que Pierre lui-même a dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. Je ne vais rien appeler de nouveau ce matin, mais pour que vous soyez affermis dans la vérité présente. Vous connaissez la vérité, mais vous êtes là où vous êtes rendu dans votre vie. Ça, c'est nouveau. Vous n'avez jamais vécu ce que vous êtes en train de vivre maintenant. C'est du nouveau, c'est sur mesure, puis Dieu a quelque chose pour vous maintenant avec ce qu'on a considéré aujourd'hui. Moi, je ne sais pas c'est quoi, mais une chose que je sais, puis on le dit, si on cherche Dieu là-dedans, si on veut le découvrir dans la vérité présente, dans ce qu'on est en train de vivre là, on va le trouver. Il va se révéler à nous. Si on frappe, il va nous ouvrir. Si on cherche, on va le trouver, lui. C'est vrai pour les non-sauvés, c'est aussi vrai pour nous, les enfants de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. C'est la plus belle des promesses. Dieu se laisse trouver. Puis quand on le trouve, on a trouvé tout ce dont on a besoin, parce qu'il est notre tout en tous. Amen! On va prier. Seigneur, merci ce matin pour le fait que tu t'es révélé à ses premiers disciples. Tu t'es fait connaître à eux. On a vu 4 manières différentes. Merci Seigneur que tu es un Dieu créatif. Tu as toutes sortes de tours dans ton sac. Merci Seigneur que le but, c'est pas tant de comprendre le moyen par lequel tu te fais connaître, mais surtout que tu te fasses connaître. Et on te prie pour ceux dans notre entourage qu'on aime, dans nos familles, nos amis, les relations qu'on a, les relations rédemptrices, que tu puisses, Seigneur, te faire connaître à ceux qu'on aimerait donc qu'ils te connaissent. On voit que ce qui leur manque, c'est pas plus d'argent, c'est pas une meilleure job, c'est pas une famille qui va tout bien, c'est toi. C'est toi au milieu même de ce qu'ils vivent. Et c'est vrai pour nous aussi, Seigneur. On soupire après toi et comme Jean et André, on veut chercher plus. Parce que, Seigneur, on peut toujours plus te découvrir. Merci que tu te laisses trouver. Merci que tu es le Dieu de toute grâce, de toute consolation. Que oui, tu nous permets des fois d'être hors de la zone de confort. Tu nous permets de vivre comme Job des épreuves, des fois qui sont au-delà de ce qu'on aurait pensé être capable de supporter. Mais Seigneur, le trésor, c'est toi. À travers tout ce que tu nous permets de vivre. Merci pour ça, Seigneur. Et on veut s'unir ensemble pour prier à te chercher là-dedans. Gardez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est en son nom merveilleux qu'on prie toutes ces choses. Amen.